Très bon réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Fidèle d'Emmanuel Macron de la première heure, son conseiller Ismaël Emelien quitte l'Elysée. Il est lui aussi menacé, vous le comprendrez, par l'affaire autour d'Alexandre Benalla.
Et puis dans cette édition, vous entendrez également le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il a donné des chiffres hier soir sur l'antisémitisme en France. Il y a eu 541 actes antisémites en 2018, soit une hausse de 74%, et l'année 2019 commence mal.
Pendant que la coalition internationale pilonne la dernière région syrienne où est retranché le groupe État islamique, les familles de djihadistes attendent. Seront-elles rapatriées dans leurs pays respectifs ? Sur place, en tout cas, rien ne semble prêt. Voilà ce que nous dira notre envoyé spécial.
Et puis, nous irons aussi en Espagne et à Bruxelles pour l'ouverture du procès de 12 indépendantistes. Ils sont accusés d'avoir organisé le référendum d'autodétermination en 2017.
Que se passe-t-il en Haïti ? Depuis 5 jours, des manifestations violentes ont fait 2 morts. Les revendications sociales de l'opposition ne sont pas entendues par le président. Nous irons sur place. C'est l'un des plus proches conseillers d'Emmanuel Macron. Ismaël Emelien annonce sa démission. « Mon départ correspond à une nouvelle étape de mon engagement », déclare-t-il dans un entretien au magazine Le Point, ce que confirme l'Élysée. Il quittera donc ses fonctions d'ici fin mars, début avril, une fois le grand débat national terminé. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. Officiellement, Ismaël Emelien part pour promouvoir son livre. Officieusement, on peut penser que l'affaire Benalla l'a fait vaciller, Rosalie.
Son nom apparaît très tôt, dès le début de l'affaire Benalla en fait. Ismaël Emelien est soupçonné d'avoir eu entre les mains des bandes de vidéosurveillance obtenues illégalement auprès de la police. Des images d'abord récupérées par Alexandre Benalla lui-même, censé le dédouaner dans le premier volet du dossier, celui des violences du 1er mai, et dont un extrait s'est ensuite retrouvé sur un compte Twitter pro-Macron. Et puis, au fur et à mesure des révélations, le nom d'Ismaël Emelien revient, notamment dans des enregistrements publiés par Mediapart.
T'es soutenu par qui ? Par le président, madame. Ismaël qui me conseille sur les médias et la compagnie.
Devant Vincent Crase, Alexandre Benalla se targue d'avoir le soutien d'Emmanuel et Brigitte Macron, mais aussi d'Ismaël Emelien, embarrassant a priori. Le conseiller spécial, ni entendu ni perquisitionné dans cette affaire, réfute tout lien entre sa démission et le dossier Benalla. C'est un départ vu en totale intelligence avec le président de la République. Toute autre interprétation qui sera faite, et il y en aura, devance-t-il, sera fausse.
Et c'est surtout, Rosalie, un très proche d'Emmanuel Macron qui quitte l'Élysée, nous le disions. Un de plus.
Ismaël Emelien, c'est le stratège du président, sa boîte à idées. Le très discret trentenaire accompagne Emmanuel Macron depuis les balbutiements d'En Marche. Il fait partie de ceux que les marcheurs surnomment les mormons de la Macronie historique. Et c'est le troisième mormon qui quitte le navire, le quatrième de la garde rapprochée, si on élargit le cercle. Avant lui, le mois dernier, Sylvain Faure, la plume du président, a annoncé son départ. Stéphane Séjourné, le conseiller politique, est lui parti diriger la campagne pour les européennes. La conseillère communication internationale Barbara Frugier a également quitté son poste. Tout cela coïnciderait avec un désir de renouvellement à l'Élysée.
Merci beaucoup Rosalie Lafarge pour ces précisions ce matin. L'affaire dite Benalla encore, et ces précisions du site d'information Mediapart cette fois. Alexandre Benalla aurait bel et bien négocié un contrat pour assurer la sécurité d'un homme d'affaires russe quand il était encore à l'Élysée. Depuis son licenciement cet été, il a négocié et signé 2 nouveaux contrats de sécurité pour un montant de 980 000 euros chacun. C'est une progression jamais connue, plus 74% d'actes antisémites en France en 2018 par rapport à 2017. Leur nombre repart à la hausse selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le ministre Christophe Castaner était d'ailleurs hier soir dans l'Essonne à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est là que le jeune Ilan Halimi, 23 ans, avait été torturé à mort en 2006 parce qu'il était juif. C'est là aussi qu'hier, que les arbres plantés en sa mémoire ont été découverts coupés, sciés, 2 jours avant une cérémonie en mémoire du jeune Halimi. Voici donc les mots hier soir de Christophe Castaner à Sainte-Geneviève-des-Bois. Tendez l'oreille.
L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine. C'est ce qui s'est passé pour Ilan Halimi. Dans 2 jours, nous nous préparions ici, dans cette commune, à ce souvenir. Dans 2 jours, nous voulions pousser à nouveau ce cri d'espérance pour que cela ne se reproduise pas. Et pourtant, la réalité est tout autre. L'antisémitisme a progressé de 74% dans ces cris d'horreur l'année écoulée. En attaquant un culte, en attaquant la mémoire de Simone Veil, la mémoire d'Ilan Halimi, c'est la République que l'on attaque. Je le dis avec la plus grande fermeté, nous ne laisserons rien passer.
Et la justice est déjà saisie, car il faut souligner aussi qu'à Paris ces derniers jours, un restaurant a été dégradé avec le mot « juif »,« Juden », écrit en lettres jaunes. Le visage de Simone Veil a également été barré d'une croix gammée. Ses fils ne devraient pas porter plainte, ce n'est pas de nature à apaiser l'ambiance. Voilà ce qu'ils disent ce matin. « La passion française pour la haine », c'est le titre du billet politique de Frédéric Seyss. Il reviendra sur cette violence, notamment après ce journal. Pas une salle de classe sans des drapeaux français et européens, pas une école sans l'hymne national affiché sur ses murs. Voici l'objectif de l'amendement voté cette nuit par les députés. L'Assemblée nationale examine toujours cette semaine le projet de loi pour une école de la confiance. Cette lettre à présent adressée à Matignon qui est signée par 8 syndicats, 8 grandes organisations, excepté Force ouvrière. Elle demande le report de la réforme de la fonction publique, car si le gouvernement leur a déjà fait des promesses, pas de rémunération au mérite, pas de grand plan de départ volontaire, eh bien les représentants syndicaux s'inquiètent tout de même, à l'image de Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonction publique.
Il n'y a pas de problème de communication, il y a un problème de prise en compte de nos demandes par le gouvernement. À 8 organisations, nous avons fait le choix de nous adresser au Premier ministre. Il nous semble que un délai supplémentaire permettrait de continuer d'avancer, de continuer de faire entendre certaines de nos propositions pour, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse, c'est améliorer le quotidien et améliorer les conditions d'emploi de nos collègues. On a quelques signaux, mais beaucoup trop peu. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que, à partir du moment où l'avant-projet de loi nous sera communiqué, on puisse à nouveau engager un temps de dialogue suffisant pour tenir compte de nos expressions.
Les organisations syndicales qui demandent donc à travailler sur le sujet, la réforme de la fonction publique après celle des retraites. Elles sauront alors, disent-elles, comment faire évoluer les rémunérations actuelles.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. En Syrie, le groupe État islamique résiste.
L'organisation djihadiste s'accroche à son ultime territoire dans la province orientale de Deir ez-Zor, à la frontière avec l'Irak. Plusieurs raids de la coalition internationale y ont encore été menés hier. Ils ont causé la mort de 16 civils. Mais beaucoup de civils ont également fui. Des familles de combattants de Daesh ont ainsi été conduites dans des camps contrôlés par les Kurdes. 355 familles au total, Étienne Monin.
Dans ce groupe d'étrangères, on compte donc des Allemandes, des Ouzbeks, des Russes et notamment des Françaises. Beaucoup d'entre elles sont sorties avec leurs maris. Elles n'ont pas de nouvelles d'eux et pas de traces non plus d'un éventuel rapatriement en France, dit Nadim Houri, qui enquête sur la situation de ces camps pour le programme de lutte antiterroriste de Human Rights Watch.
Les Françaises dans les camps ont entendu, parce qu'il y a parfois elles ont des téléphones cachés, etc., ou parce qu'elles entendent parfois les médias, qu'effectivement la position de la France est en train d'évoluer. Mais par contre, concrètement sur le terrain, il n'y a eu aucun changement. Elles n'ont reçu aucune visite pour recenser le nombre de Françaises ou d'enfants français, etc. Et je dois dire que durant notre visite, on a rencontré beaucoup d'officiels locaux de très haut niveau, même au niveau militaire, sécuritaire. Et quand on leur demande est-ce qu'il y a des préparatifs, quelque chose de concret, eux, ils nous disent qu'ils sont en train d'avoir des nouvelles par les médias comme nous autres.
Ces femmes attendent maintenant de connaître leur sort. Elles sont accompagnées par un nombre important d'enfants, souvent très jeunes, parfois âgés de quelques mois.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Culture dans l'Est de la Syrie. Un procès attendu s'ouvre aujourd'hui à Madrid, celui de 12 indépendantistes catalans. Responsables politiques ou associatifs, ils sont jugés pour rébellion et détournement de fonds. Leur est surtout reproché d'avoir organisé une consultation illégale. Le référendum d'autodétermination, c'était en octobre 2017. Parmi eux, Oriol Junqueras. Il était vice-président du gouvernement régional à l'époque des faits. Et en l'absence du président catalan, Carles Puigdemont, installé en Belgique, c'est lui qui risque la plus lourde peine, 25 ans de prison. Mathieu de Taillac l'a rencontré au parloir dans une prison près de Barcelone avant son transfert au tribunal de Madrid.
Davantage qu'à convaincre, Oriol Junqueras cherche à séduire son interlocuteur. Même au parloir, derrière la vitre qui empêche de lui serrer la main, il plaisante. Il explique avec le sourire le langage de tolard qui permet de saluer en plaçant la main contre le verre. Il parle de politique, bien sûr. Il reste président de son parti, ERC, la gauche indépendantiste, et il compte bien transformer son procès judiciaire en une tribune politique. Les Espagnols se rendront bien compte que l'on n'a rien contre eux, veut-il croire. Nous n'avons commis aucun délit, dit-il aussi, comme s'il répétait sa défense. Il se met à réfléchir à l'éthique de la prison. Socrate, Sénèque ou Cicéron ont eu la possibilité de fuir et ne l'ont pas saisi, lâche-t-il, avant de dire qu'il est resté en Catalogne par sens des responsabilités. Son ancien chef, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, a peu apprécié, lui qui est parti en Belgique pour éviter de répondre aux appels des juges espagnols. Junqueras, lui, reste calme et patient. S'il est condamné à une peine relativement faible, 4 ou 5 ans de prison, résonne un proche, entre la préventive et les remises de peine, il pourrait sortir assez vite. « Franchement, qu'est-ce qu'on fait là » demande-t-il, yeux dans les yeux. L'accusation reproche au prévenu d'avoir violé la Constitution et la loi et de s'être soulevé pour déclarer l'indépendance. Le procureur réclame 25 ans de prison.
Et pendant ce temps donc, que devient Carles Puigdemont, toujours en Belgique? Il sera jugé aujourd'hui par contumace à Madrid et il continue à tirer les ficelles de la politique catalane depuis sa résidence non loin de Bruxelles, Angélique Bouin.
La maison est cossue et bien gardée, caméras de vidéosurveillance et panneaux défense d'entrée. Deux mâts sur le côté accueillent pour les grandes occasions les drapeaux catalans et européens. L'homme est assez discret, raconte Yves, le livreur de journaux, mais sa présence ici ne passe pas inaperçue. Il a ses fans et ses détracteurs.
Il y a un truc amusant, c'est que là-bas, un peu plus loin dans la rue, il y a quelqu'un qui depuis lors a mis un grand drapeau espagnol sur sa façade. Mais sinon, on croise régulièrement des partisans de l'indépendance. Il y en a même une fois qui m'ont demandé si je pouvais les prendre en photo devant la maison. Donc, c'est un peu un pèlerinage aussi pour une série de Barcelonais.
C'est au rez-de-chaussée transformé en salle de travail que Carles Puigdemont reçoit beaucoup. Son dauphin, Quim Torra, actuel président indépendantiste de la Catalogne, vient y prendre conseil. En octobre, tous deux ont lancé un nouveau mouvement, la Crida, l'appel, pour tenter de rassembler les séparatistes catalans. Autre combat, détaillé au micro de nos confrères de la RTBF, celui pour l'autodétermination des peuples. Puigdemont voyage beaucoup et fait souvent salle comble.
Parcourir l'Europe pour m'exprimer. C'est ça que j'ai finalement trouvé en vivant au centre de l'Europe. J'ai pu parler aux Finlandais, aux Danois, aux Allemands aussi, aux Suisses. Ça commence à bouger parce qu'il y a un changement en l'opinion publique européenne.
Aujourd'hui, il sera à Berlin, demain aux Pays-Bas. Sera-t-il candidat aux élections européennes? À une condition, rappelle son porte-parole, que cela soit sur une liste indépendantiste unitaire. Cela n'en prend pas le chemin.
Une nouvelle journée de mobilisation s'annonce ce mardi au Venezuela. Et la date n'a pas été choisie au hasard. Le 12 février est en effet le jour de la jeunesse dans le pays. L'opposant Juan Guaido compte ainsi sur la mobilisation de cette jeunesse pour reconstruire le pays. C'est ce qu'a constaté Benjamin Delisle.
Sur le campus de l'université centrale du Venezuela, au cœur de la capitale, plusieurs jeunes accrochent une grande pancarte sur un bâtiment. La fac de droit avec l'Assemblée nationale, peut-on lire. Mariana, 18 ans, y joint quelques dizaines de bouts de papier.
Ce sont les noms des jeunes tués depuis 2017, tous ceux qui sont morts.
Derrière elle, son professeur Alejandro Rodriguez observe la scène avec bienveillance.
Ils sont majeurs, ce sont à eux d'assumer leur opinion. Ça ne me paraît pas correct d'interférer dans leur opinion. Je ne détiens pas la vérité.
En revanche, le professeur assure qu'il n'y a plus beaucoup de chavistes dans l'université, encore moins de soutien à Nicolas Maduro. Selon Maria, 22 ans, c'est parce que l'université, comme tout le pays, s'est vidée de sa jeunesse.
Presque tous mes amis sont partis à cause de l'insécurité, de la violence, tout ça. On nous prive d'avenir ici, c'est difficile. C'est pour ça que nous, les jeunes, devons lutter pour notre futur et notre liberté.
Ici, presque tout le monde ira marcher demain. Certains veulent même s'investir plus, comme Luis, volontaire pour distribuer l'aide humanitaire.
Quand Guaido a mis en ligne la page pour devenir volontaire, ça a saturé instantanément. Ici, à l'université, on est nombreux à s'être inscrits pour aider la logistique, autant sur le terrain que sur les réseaux sociaux.
Mais comme Luis, la plupart doutent que Nicolas Maduro laisse l'aide passer. Ils espèrent simplement qu'à terme, la pression de la rue le poussera à quitter le pouvoir.
Autre mobilisation de la jeunesse en ce moment, cela se passe en Haïti, paralysée par des manifestations violentes à répétition depuis 5 jours. L'opposition réclame le départ immédiat du président Jovenel Moïse. Il est décrié par une population qui est fatiguée par les promesses non tenues et par la corruption généralisée, Amélie Baron.
Les jeunes du bidonville de Cité Soleil sont à bout et au 5e jour de manifestation à travers le pays, ils ont décidé eux aussi d'exprimer leur colère contre le président Jovenel Moïse qui n'a pas tenu ses promesses, comme en témoigne ce manifestant qui, comme la grande majorité, a défilé le visage masqué.
On est resté calme et Jovenel nous a abandonnés. Quand on a faim, ils savent ce qu'on peut faire. Nous, on veut juste du travail, on n'en peut plus de souffrir, on va tout raser.
Face à ces centaines de jeunes très agressifs, la police a fait un large usage de lacrymogène et a aussi tiré en l'air à balles réelles. Vilma est fatiguée d'une police et d'une justice à deux vitesses.
Pourquoi la police est-elle toujours sur le dos de la classe moyenne et des pauvres? Pourquoi ne peuvent-ils pas arrêter tous ceux qui ont volé l'argent des aides au développement? Nous, de Cité Soleil, on est dans les rues car on veut que Jovenel parte du pouvoir. S'il ne part pas dans l'après-midi, on va s'approcher des maisons des sénateurs, des députés, des maires et tout ça va finir.
À cette colère populaire de voir certains s'enrichir aux dépens de la majorité pauvre, le président ne répond rien. Un mutisme qui plonge toujours davantage le pays dans l'incertitude.
Amélie Baron, correspondante de RFI pour France Culture à Port-au-Prince. Les grisailles matinales devraient laisser leur place à de belles éclaircies cet après-midi. Un temps généralement calme s'annonce donc avec des températures de saison. Il fait ce matin 2 degrés à Besançon, 3 à Paris et Nantes. Comptez 4 degrés à Lille et Bordeaux, 10 degrés à Perpignan.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. 8h15 sur France Culture. Dans quelques instants, harcèlement des femmes, homophobie, complotisme, extrémisme, racisme. Faut-il quitter les réseaux sociaux avant qu'il ne soit trop tard pour la démocratie? On en parle avec Florence Porcel, qui a été victime de la désormais fameuse Ligue du LOL, Rudy Rechtad, directeur de Conspiracy Watch, et Romain Badoir, qui est maître de conférence en sciences de l'information à l'Institut français de presse. Et puis, dans une trentaine de minutes, Mathilde Serrel, dans son billet culturel, évoquera les victoires de la musique. Il y aura des jésuites dans la conclusion d'Aurélien Bélanger. Et puis, Frédéric Saïs, bonjour de votre
bonjour, Guillaume, bonjour à tous.
Politique, on va parler, eh bien, pour changer de sujet, on va rester sur la même chose.
Oui, comment expliquer cette capacité qu'a la société française à s'automutiler ?